7 milliards de voisins. Avec Emmanuel Bastide, pour les voisins et les voisines.
Bonjour, bienvenue, 7 milliards de voisins et de voisines. Quel plaisir de vous retrouver après quelques jours d'absence. Aujourd'hui, une émission Système D, bricolée avec génie grâce à mes invités qui ont passé plus d'un an à bord d'un voilier en se nourrissant d'algues et d'insectes. Enfin, je résume beaucoup. Pour répertorier, faire connaître les low-tech en opposition aux coûteuses high-technologies. Alors, vous allez découvrir comment fabriquer un fourneau solaire ou des briquettes de charbon à base de paille ou un testeur pour savoir si l'eau est potable, ça peut être utile, ou encore le recyclage de batteries pour fabriquer de nouveaux chargeurs de téléphones portables. Partout dans le monde, désormais, des hommes, des femmes trouvent des solutions simples, économiques, pour répondre à des problèmes de vie quotidienne. Et cette vie basse consommation, en mode ingénieuse, inspire de plus en plus les jeunes générations pour préserver l'environnement, évidemment. Alors, si vous vous intéressez à des innovations dans votre quartier ou votre région qui permettent de se débrouiller sans technologie, et enfin sans technologie chère et bien de consommation coûteux, eh bien appelez-nous dès maintenant pour partager vos expériences au 33 1 84 22 71 71. C'est aussi notre numéro de téléphone WhatsApp, c'est tout simple, vous nous appelez, c'est gratuit. Et bien évidemment, on est là pour entendre vos expériences. Vous pouvez aussi nous laisser des messages écrits. Nos invités dans le studio, Corentin de Châtel-Perron, 35 ans, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes ingénieur, aventurier, fondateur du Low Tech Lab. Et on peut retrouver votre aventure c'est un an et demi, à bord d'un catamaran bien nommé le Nomade des Mers, le tour du monde des innovations. Ça a donné lieu à un livre, mais aussi un documentaire qui démarre ce soir sur Arte. Et évidemment qu'on peut retrouver sur Internet et bien évidemment également le site Internet Low Tech Lab, où on va retrouver tous les modes d'emploi et les tutos pour fabriquer les objets que vous avez découverts, que vous avez testés dans votre laboratoire à bord de ce voilier, avec pas mal de mésaventures aussi, il faut bien le dire quand même. Hein.
Oui, c'est arrivé.
c'est arrivé souvent quand même.
Bah oui, comme on teste toutes les technologies qu'on va repérer à droite à gauche, il y en a certaines qui marchent plus ou moins.
Alors, vous nous direz vraiment si cette utopie a de l'avenir. Également avec vous, Pierre-Alain Lévesque, qui a participé à une partie du voyage. Vous êtes également ingénieur. Bonjour,
oui,
Pierre-Alain.
Bonjour.
Responsable des projets d'innovation au sein de l'association donc Low Tech Lab. Et vous, vous intéressez plus particulièrement à l'habitat low tech. Qu'est-ce que c'est en deux mots, l'habitat low tech?
Eh ben, en gros, c'est un habitat, c'est une maison.
J'entends.
On va pouvoir retrouver plein de systèmes qui permettent de répondre aux besoins de base sur l'accès à l'énergie, à l'eau potable, comment gérer les déchets de manière les plus efficaces possible sans impacter son environnement. Comment vivre bien et avec moins.
Ça peut être une maison en paille.
Ça peut être une maison en paille.
Qui résisterait au froid, par exemple.
Par exemple. Nous, on a fait le choix d'une maison en bois.
D'accord. Vous allez nous expliquer tout ça. Arthur Keller également avec nous. Bonjour.
Bonjour, Emmanuel.
Vous êtes spécialiste des low-tech. Vous venez de publier un rapport avec tout un think tank, la fabrique écologique, vers des technologies sobres et résilientes. Pourquoi et comment développer l'innovation low-tech? Il y a peut-être urgence, hein, rapport au réchauffement climatique, j'imagine.
Par rapport qu'à ça, rapport à plein d'autres choses, il y a effectivement une certaine urgence que malheureusement nos élites ne comprennent pas encore.
Eh bien justement, on va en parler des élites. On sera également en ligne à Dakar avec Modoun Gom, président du Senfab Lab dans la capitale sénégalaise, une sorte d'atelier pour bricoler en commun, mais de manière très technologique et avec une obligation de partager son savoir et ses découvertes. Allez les voisins, on attend vos appels 33 1 84 22 71 71. Un petit message de Mohamed qui est à Moroni, aux Comores, 28 ans, il est responsable pédagogique dans une école et il crée des boîtes à outils avec du papier usagé, des bouteilles en plastique, des lampes suspendues. Il nous dit que le recyclage est également un moyen d'intégrer des personnes vulnérables dans les métiers d'art et avec des moyens évidemment très simples et peu coûteux. Ça c'est sûr que le plastique, il n'y a qu'à se pencher pour en trouver, il suffit de ramasser. 33 1 84 22 71 71. Suivez-nous sur Facebook, sur Twitter, en direct.
7 milliards de voisins.
On est en forme.
C'est l'attitude qui gagne.
Corentin de Châtel-Perron, l'aventure du Nomade des Mers, qu'est-ce que c'est au juste? Un an et demi à bord d'un catamaran, pas dans les endroits les plus moches de la planète d'ailleurs.
Bah en fait, on est parti, c'était début 2016, sur le principe que partout dans le monde, il y a des super inventeurs qui inventent des innovations low-tech. et que le problème, c'est qu'en général, ces innovations, elles restent à échelle très locale, alors que dans certains cas, elles pourraient intéresser des millions de personnes, mais à l'autre bout du monde. Et pour qu'elles entendent parler de ces innovations-là, on s'est dit, aujourd'hui, il y a Internet, il suffit qu'on aille rencontrer tous ces inventeurs, qu'on documente leurs solutions, qu'on fasse des tutos, et puis qu'on les fasse connaître. Alors, on a aménagé un espèce de grand catamaran en laboratoire.
14 mètres.
14 mètres de long, ouais.
Avec un poulailler à l'arrière, suspendu au-dessus des vagues, à peu près, c'est ça ?
Ouais, voilà, on a mis un poulailler, il y a un espace de culture de plantes, un espace pour faire pousser des champignons, un espace pour élever des insectes, un espace pour bricoler, tout simplement, il y a des éoliennes, etc. Et à chaque fois qu'on fait escale dans un pays, on rencontre des inventeurs, ils nous apprennent leur technologie, leurs inventions, on la réplique, et après on la teste sur le bateau, et on la documente pour la diffuser en open source, en accès libre.
En même temps, vous ne niez pas la dimension un peu utopique, non, d'un tel projet par rapport à l'inexorable développement de la vie urbaine.
Mais en fait, on se rend compte que plus il y a ce développement, plus il y a de solutions qui peuvent émerger. Et on voit surtout que depuis quelques années, Internet envahit tout, partout. Je lisais qu'il y a 4 milliards de personnes connectées à Internet. Donc c'est un projet qui n'aurait pas pu avoir lieu il y a 10-20 ans. Mais qui aujourd'hui est vraiment, c'est le moment où on peut diffuser de la connaissance gratuitement.
Ouais, on est d'accord, le système D, le bricolage, il a toujours existé, en fait,
ouais. Hein,
avec plus ou moins de génie.
Il y a toujours eu de l'ingéniosité, et plus il y a de contraintes, plus des gens vivent sous contraintes, plus l'ingéniosité est nécessaire, et plus il y a de bonnes idées qui sortent.
Vous voulez lancer un appel aux auditeurs, là ?
Eh ben, s'il y a des gens qui nous écoutent et qui ont eu des supers idées, qu'ils les partagent, parce que ça peut servir à plein d'autres gens.
Arthur Keller, comment on peut définir les low-tech ? À partir de quand ce sont des low-tech ? Parce que tresser un panier avec des fibres de sac plastique découpées en lanières, est-ce que ça, c'est une low-tech ?
Oui, c'est une low-tech, mais ça ne recouvre pas effectivement tout le champ des low-tech.
C'est pas très technologique en même temps.
C'est pas très technologique. Il peut y avoir des technologies, des basses technologies, donc, dans les low-tech. La définition, c'est une question à part entière, c'est-à-dire aujourd'hui, il n'y en a pas une qui existe, mais il y a des gens qui travaillent dessus. Et justement, tout à l'heure, vous avez mentionné le rapport de la fabrique écologique autour de Philippe Biwix, qui est quelqu'un qui aujourd'hui est un petit peu en tête de pont sur la question des low-tech. C'est lui qui a écrit le bouquin L'âge des low-tech. Donc autour de lui s'est constitué un groupe qui consistait à essayer justement de favoriser l'émergence des low-tech, mais la première des missions de ce groupe, ça a été de poser une définition qui n'existait pas encore. Et je dois vous avouer que c'est un petit peu complexe. À la base, on peut avoir une première approche des low-tech qui est une approche très objet, une approche très comment on fabrique des objets pour répondre à des besoins plus ou moins élémentaires, plus ou moins de base, et c'est essentiellement ce que vous avez fait, je crois, de votre côté, côté low-tech lab et côté Corentin,
sur le bateau,
Corentin,
ouais.
Voilà. Et en ce qui me concerne, en ce qui nous concerne à la fabrique écologique, on se penche sur comment on passe d'une logique objet à une logique vraiment sociétale. Comment on en fait un nouveau paradigme en réalité pour réorganiser l'innovation et même peut-être la manière dont on consomme et on produit.
Donc vous en faites une approche théorisée et beaucoup plus politisée aujourd'hui.
Nécessairement qui vient dans le champ politique, oui, nécessairement. Alors après je peux vous donner une définition qui est très humblement, je peux vous lire la définition qui a été posée par la fabrique, celle à laquelle on a abouti. Je vous vois qui fait oui de la tête, donc j'y vais. Je vous la lis, hein, tout simplement. Donc les low-tech, par opposition au high-tech, sont une démarche visant, dans une optique de durabilité, à questionner nos besoins réels. Donc vous voyez déjà, c'est une démarche, et ça questionne les besoins, donc la consommation, pas que la production. Et qui consiste à développer des solutions aussi faiblement technologisées que possible, minimisant l'énergie requise à la production et à l'usage, utilisant le moins possible de ressources ou de matériaux rares, et n'infligeant pas de coûts cachés à la collectivité, notamment sur l'environnement. C'est quasi fini. Et donc elles sont basées sur des techniques qui sont le plus simples possible, le moins dépendantes possible des ressources non renouvelables, sur des produits qui sont réparables, maintenables dans la durée, qui facilitent l'économie circulaire, qui facilitent la réutilisation et le recyclage, et qui s'appuient sur les savoirs et le travail humain dignes. Donc voilà, c'est une démarche.
Donc c'est profitable à tous.
C'est l'idée. Enfin, après, c'est complexe. Et
pas l'économie qui vend de la high-tech à longueur de journée.
Pas cette économie-là, hein. Mais c'est favorable à une autre façon de voir l'économie et c'est tout à fait pas incompatible avec l'économie. Mais juste une chose, il ne faut pas confondre low-tech, en tout cas dans notre acception du terme, il ne faut pas confondre low-tech et low-cost. Ce qui est low-tech n'est pas nécessairement low-cost. Ça peut demander justement énormément de créativité, comme vous disiez, parce qu'il y a des contraintes nouvelles qu'il faut intégrer au cahier des charges, mais ça peut du coup demander énormément de temps de recherche et développement et beaucoup d'ingéniosité et de créativité. Et donc du coup, ça peut coûter cher au final.
Ouais. Il y a un savoir requis, il y a une connaissance indispensable. C'est pas pour rien si là, dans le studio, on a 3 ingénieurs ce matin quand même, Corentin.
Bah oui, effectivement. C'est parfois très compliqué de faire simple.
Exactement.
Et en fait, j'ai une citation de Saint-Exupéry qui dit « La perfection est atteinte non pas quand il n'y a plus rien à ajouter, mais quand il n'y a plus rien à retirer. » Et effectivement, parfois, il faut beaucoup cogiter, il faut faire aboutir une technologie pour qu'elle soit la plus simple possible d'utilisation, de réparation, etc. Pour bien utiliser les ressources locales. C'est très complexe en fait, de mettre au point une technologie.
Et c'est ça. Et en même temps, dans la façon dont vous communiquez, Pierre-Alain Lévesque, vous tous, vous dites beaucoup, il faut que ça soit accessible à tous quand même. Il faut que tout le monde s'empare du sujet. C'est surtout pas un sujet que vous voulez réserver à une petite communauté d'ingénieurs illuminés, non, Pierre-Alain ?
Justement, les low-tech doivent être accessibles à tous. Et comme disait Arthur, en fait... plus que juste des technologies, c'est presque une philosophie, une démarche. Et après, justement, c'est à nous de réfléchir quel est le levier le meilleur pour atteindre les gens. Est-ce que les gens vont faire par eux-mêmes? Est-ce que finalement, ils doivent acheter le système tout fait, par exemple, etc. Chaque contexte est différent. Donc, chaque personne qui s'intéresse au low-tech dans chaque contexte doit définir, je vais plutôt passer par de la production ou par de l'accompagnement, etc. pour que des gens puissent chez eux avoir les systèmes ou appliquer la démarche, etc.
Et je rajouterais juste que la raison pour laquelle il y a effectivement un certain nombre d'ingénieurs qui s'intéressent à ça n'est pas juste parce qu'il y a de la technique dedans, c'est parce que les low-tech sont précisément à l'interface entre les penseurs, ceux qui réfléchissent comme un peu ce que je suis aujourd'hui, on réfléchit sur de la théorie de ce que sont ou pourraient être les low-tech, et les faiseurs, les gens qui vraiment sont dans l'action et sont dans la créativité manuelle presque, j'ai envie de dire, vous êtes de ce côté-là aussi, et précisément les ingénieurs sont des gens qui sont à la frontière entre ces deux mondes.
Alors c'est clair, on ne va pas arrêter de prendre l'avion demain, surtout vous Corentin, parce que vous allez sûrement bientôt repartir et que votre bateau, votre catamaran, d'ailleurs le périple a été rendu possible parce qu'il y avait aussi de la high technology à bord, bien sûr, des radios, etc. pour des raisons de sécurité.
Tout le projet, à la base, on s'appuie quand même sur Internet pour diffuser de la connaissance et Internet est clairement high tech.
Il ne s'agit pas d'opposer l'un à l'autre, même si low tech s'est construite quand même à la base sémantiquement en opposition au high tech. C'est ça qui est bien compliqué. Rien ne se jette, tout se transforme, en tout cas dans l'émission aujourd'hui. On parle des innovations low-tech et vous nous appelez pour cette émission Système D, 33 1 84 22 71 71, c'est aussi le numéro de téléphone WhatsApp et ça c'est de la bidouille. So lover, which way have you moved? It's been a while since I've heard these grooves. Cosmic love gave you something gold. So you wrap it all up and take it away. Suddenly it's all chez 7 milliards de voisins, on est en direct sur RFI et on découvre ensemble pas à pas les low-tech, ces technologies qui sont peu consommatrices, peu énergivores, peu coûteuses, très ingénieuses, qui demandent beaucoup de créativité pour répondre à des besoins de la vie courante, consommer de l'eau propre, s'éclairer. Il y a beaucoup de création dans ces low-tech. Et nous sommes en ligne avec Modoun Gom, qui est président du Sen Fab Lab de Dakar. Bonjour Modoun Gom.
Oui, bonjour.
Maudou, vous êtes en direct chez nous, chez 7 milliards de voisins. Et vous, vous avez créé vous avez créé ce Fab Lab à Dakar. Vous nous entendez bien, Maudou ?
Oui, je vous entends très bien, oui.
Alors, on est dans la ville vraiment par excellence de la récup du système D. Il y a le quartier de Colobane qui n'est pas très loin de votre Fab Lab qui est à Grand Yoff. Colobane, c'est vraiment le quartier de la récup de pièces en tout genre, avec des milliers de pièces, notamment de composants électroniques. Vous, qu'est-ce que vous apportez dans cette culture où la récup a toujours existé, où on a toujours su transformer, bidouiller? Qu'est-ce qu'un Fab Lab, un atelier de fabrication en commun, peut apporter finalement, Maudou Ngom?
Oui, juste pour démarrer, vous dire que la décharge qui était à Colobane est déplacée à Grand Yoff.
Ah, la partie recyclage, c'est ça?
Bien sûr, c'est exactement ça, à cause des travaux qui se passent là-bas sous le pont de Colobane.
Ah, d'accord. Eh bien, écoutez, très bien. Et alors, vous, qu'est-ce que vous apportez avec le... Donc, du coup, vous avez tout à portée de main.
Voilà. Donc là, nous, le but, c'est d'avoir un Fab Lab, comme tous les autres Fab Labs. Et comme vous l'avez déjà dit récemment, à Dakar, au Sénégal, il y a des créateurs un peu partout. Des bidouilleurs, des gens qui recyclent et qui font à peu près beaucoup de choses. Donc nous, à ce lab, on essaie juste d'apporter la technologie et la précision et les systèmes d'organisation. Donc c'est ça qu'on va amener comme innovation.
La technologie, la précision et l'organisation, sur quoi vous travaillez en ce moment?
Donc en ce moment, nous travaillons, exemple, sur les panneaux solaires, low-tech. Les panneaux solaires qu'on fabrique nous-mêmes, bon, bien que les cellules, on les importe, mais tout le reste, on le fait sur place avec des pièces recyclées.
C'est-à-dire?
Nous travaillons... Pardon?
C'est-à-dire, pièces recyclées?
C'est-à-dire, une fois qu'on a les cellules photovoltaïques, il nous faudrait fabriquer un cadre, un support pour le mettre en marche. Donc c'est ce support-là qu'on va fabriquer avec les éléments qui sont sur place à la porte de main.
Notamment du plexiglas, du
plexiglas, des goulottes ou bien du tissu métallique pour avoir faire le cadre.
Ouais.
Et des morceaux de bois en bas ou bien des morceaux de tôle qu'on pose en bas.
Ouais. Très concrètement, est-ce que vous pouvez dire à nos auditeurs à l'heure actuelle que vous êtes capable de fabriquer des panneaux solaires à base de récup pour combien? Je veux dire, en franc CFA, et pour éclairer combien de watts?
Bon, environ, déjà, on peut faire un panneau de 20 watts à pratiquement moins de 5000 francs.
Ce qui est évidemment pas le coût du marché.
Du tout. Parce que 5000 francs n'est même pas moins de 10 euros. Oui. Donc là, vraiment, on peut faire vraiment à moindre coût. C'est des panneaux qui ne coûtent absolument rien du tout.
D'autres ateliers de fabrication pour d'autres objets, Maudou Ngom?
Oui, d'autres objets. En fait, là, nous travaillons, exemple, sur des fauteuils motorisés. Parce qu'en fait, comme vous le savez, à Grand Yoff, nous habitons dans un quartier populaire et très limité. C'est un quartier vraiment pauvre où les gens n'ont pas beaucoup de moyens. Donc, le but, c'est de travailler sur des solutions low-tech pour permettre aux gens de bénéficier de ces technologies. Donc là, nous sommes en partenariat avec une association qui est en France. Le but, c'est de travailler dans la fabrication des fauteuils motorisés pour les personnes vivant avec un handicap. On le fait à base de palettes et on ajoute cette partie technologique pour permettre à ce fauteuil de pouvoir se déplacer comme une voiture.
Ouais, des fauteuils roulants qui sont extrêmement coûteux, sinon. Qui vient dans ce Fab Lab? C'est les jeunes du quartier?
Les jeunes du quartier, les femmes et les élèves. Mais en ce moment, nous avons pratiquement beaucoup de femmes qui viennent dans ce lab. Raison pour laquelle nous travaillons beaucoup sur le recyclage. Le recyclage du plastique et le recyclage informatique.
Les low-tech sont enseignés au lycée?
Malheureusement, non. Parce que raison de plus, nous, on a installé le lab au cœur des Grands Yoff, c'est à cause de cela. Parce que nous avons constaté que dans nos écoles, c'est pratiquement des écoles qui n'ont pas de laboratoire. Donc, surtout les élèves qui font les séries scientifiques, ils ont énormément de problèmes pour avoir la compréhension au niveau de la science. Donc, le but nous de ces labs, c'est essayer d'avoir un laboratoire mobile qui se déplace dans les écoles et permettre aux élèves qui font surtout les séries scientifiques de mieux comprendre les sciences et la technologie.
C'est ça. Et puis, à l'occasion, vous recyclez aussi pas mal de matériel informatique qui est ensuite...
Pas mal de matériel informatique, ouais. Oui, parce que nous sommes déjà là...
Parce que vous n'êtes pas contre les ordinateurs, avec, on est bien d'accord.
Oui, oui, parce qu'en fait, là aussi, bon, c'est nous avons trouvé que déjà aussi dans nos écoles, nous avons pratiquement énormément de problèmes avec des jeunes qui utilisent mal l'informatique. Pourquoi dans les écoles, on n'a pas des outils informatiques. Des écoles qui en manquent. Donc, le but, c'est de travailler en partenariat avec Emma Buntu, qui travaille sur les recyclages informatiques. Donc, on essaie de donner une autre vie, une seconde vie à ces machines.
Corentin de Châtel, alors restez en ligne avec nous, hein, Maudou. Corentin de Châtel-Perron, Pierre-Alain Lévesque, Arthur Keller, trois ingénieurs dans le studio de RFI. Vous en connaissez certains que vous avez vus au Sénégal. Mais comment vous réagissez par rapport à ce type de Fab Lab, Corentin ?
Moi, je suis super content d'entendre Maudou parce qu'on l'avait rencontré pendant notre escale à Dakar. Bonjour Maudou, ça me fait plaisir de t'entendre.
Bonjour.
Et en fait, c'était une de nos premières escales, et c'est là qu'on s'était rendu compte, je sais pas si c'était le cas pour toi, Pierre-Alain aussi, en fait, du dynamisme qu'il y avait et du fait que à Dakar, il y avait un réseau de makers, de bricoleurs super ingénieux et hyper dynamiques. En fait, c'était une de nos premières escales, et on s'est dit, waouh, si c'est pareil partout dans le monde entier, ça va être génial, il faut connecter tous ces gens-là entre eux. Et justement, à Dakar, ils étaient déjà pas mal connectés entre eux, en fait, avec aussi plusieurs autres pays d'Afrique de l'Ouest. Nous, on était restés un mois sur place, et en fait, ils avaient invité plusieurs makers d'autres pays d'Afrique de l'Ouest, et ensemble, on avait fait une éolienne, enfin plusieurs éoliennes, dont une faite avec des moteurs d'imprimantes recyclées qui venaient de la décharge de Koloban.
Qui vous a servi sur le bateau ensuite. Hein.
Et en plus, on a fait des formations après. Il y a plein de gens qui l'ont répliqué dans plusieurs pays. Donc ouais. Ça, c'était vraiment un succès.
Une éolienne à partir d'un moteur d'imprimante recyclée.
Ouais, c'est les moteurs
juste en quelques mots quand même, pour qu'on essaye d'imaginer.
En fait, il y en a plein à Koloban, mais comme dans toutes les décharges de toutes les villes du monde entier, c'est... dans les photocopieurs ou les scanners ou les imprimantes qui sont jetés en général, alors que à l'intérieur il y a plein de trucs qui marchent encore. Il y a les moteurs qui font avancer les feuilles ou qui font déplacer la tête du scanner. Quand on fait tourner ces moteurs là, ça produit de l'électricité, donc il suffit de brancher des pales dessus, mettre ça dans le vent et ça produit donc de quoi recharger un téléphone portable ou allumer des lampes. C'est pas beaucoup d'énergie, mais c'est suffisant déjà pour répondre aux besoins de base.
Et pour un coût défiant toute concurrence ?
Ah ben, tout peut être récupéré. Donc en fait, pour quelques euros, même pas, on peut fabriquer son éolienne. Oui.
Maudou Ngom, juste une dernière question. Comment est perçu ce type d'initiative par les élus locaux à Grand Yoff ?
Malheureusement, c'est là notre problème. Parce que comme vous le savez, au niveau technologie, nous sommes vraiment en retard. Donc là, nous sommes en train d'innover. Mais malheureusement, au niveau autorité, là, c'est un peu compliqué parce que nous sommes déplacés. On a pu avoir plusieurs discussions avec eux. Mais la réception n'est pas encore très bonne.
C'est-à-dire ?
Donc là, nous sommes en train...
Très concrètement, quand vous dites on a du retard à voir l'équipement des Sénégalais en téléphone portable... On peut être persuadé du contraire. Vous êtes dans une expérimentation scientifique davantage.
Oui, c'est exactement ça. Sauf que là, au niveau autorité, nous avons besoin pratiquement que les autorités nous comprennent pour qu'ils puissent nous accompagner au moins. Nous, c'est ce problème-là que nous avons. Parce que le but de ces espaces, c'est vraiment la vulgarisation. Donc, comme l'a dit Corentin, donc, nous avons eu à bénéficier de son expérience et de partager son expérience sur l'éolienne. Donc c'est un projet que nous avons continué à faire dans les écoles, à faire des ateliers avec des enfants et des adultes. Mais sauf que là, au niveau autorité et niveau communal, c'est là où vraiment ça bloque un tout petit peu. Parce que là aussi, bon, comme vous le savez, les Fab Labs, c'est vraiment avec des moyens très très limités. Donc, il faudrait qu'il y ait des autorités derrière pour nous pousser à l'avant. Donc, c'est à ce niveau-là que vraiment les choses n'avancent pas trop.
Et ça veut dire quoi concrètement? Vous auriez besoin d'imprimantes 3D notamment?
Donc là, même avec, nous avons déjà une imprimante 3D que nous avons achetée nous-mêmes avec notre propre moyen. Mais nous avons au moins besoin de plus, par exemple, avoir un espace. Parce que comme je vous l'ai dit, nous avons pratiquement beaucoup de femmes qui viennent nous voir et qui veulent vraiment travailler sur le recyclage. Raison pour laquelle on avait un slogan qu'on avait sorti en disant que Grand Yoff, zéro déchet de plastique. Donc vous savez, donc avec ce nombre un peu important, nous n'avons pas assez d'espace pour les recevoir. Donc il nous faudrait au moins que les autorités soient sensibles sur cela et pour nous vraiment nous accompagner à ce niveau-là. Donc nous avons acheté une imprimante 3D, acheté des composants électroniques avec nos propres moyens. Pour le reste, maintenant, nous travaillons beaucoup sur le recyclage. Parce que même déjà, c'est le recyclage qu'on met à la disposition de ces élèves avec des cartes électroniques où on les trie, on démonte les composants électroniques et on les met à la disposition de ces écoles qui font la technologie.
Et puis, n'importe qui nous écoute et qui habite le quartier peut venir en disant « Moi, j'aimerais bien apprendre à fabriquer mes panneaux solaires pour ma maison. » On est bien d'accord, Modoun Gom.
Oui, mais le but de ces Fab Labs, c'est exactement cela. Donc, c'est juste des espaces ouverts à tout le monde, où tout le monde peut venir apprendre, fabriquer et vraiment faire ce qu'il veut sans déranger les autres, disons.
Ouais. Donc, et partager, si possible, ces trouvailles. Merci beaucoup, Modoun Gom, d'avoir été en lien avec nous, président du SEN Fab Lab de Dakar, qui est basé à Grand Yoff. Vous nous appelez au 33 1 84 22 71 71. Si le système D dans votre vie quotidienne, notamment avec cette base technologique dont on parle, et beaucoup d'ingéniosité. Arthur Keller, les Fab Labs, aujourd'hui on parle de communauté de makers. Pour parler plus simplement, ce sont des bricoleurs de génie. Pourquoi aujourd'hui c'est une valeur qui monte ?
C'est une valeur qui monte, oui, effectivement. Il y a toute une dynamique, j'ai envie de dire, qui vient du bas essentiellement, de gens qui se bougent et qui réinventent un petit peu comment on innove en réalité et comment on peut ensuite réussir à répondre aux besoins des gens sans forcément passer par un système qui est un système qui est, pour certains en tout cas, aux yeux de certains, qui est un système qui est un peu moribond. C'est-à-dire que quand on est hyper dépendant d'un système qui lui-même est hyper dépendant, pour ne dire que ça, par exemple du pétrole, et qu'on n'est pas du tout sûr que dans les décennies qui viennent, on aura suffisamment de pétrole pour faire tenir ce système. Il y a des gens qui vont vers une forme d'autonomie ou qui veulent aller vers une forme d'autonomie pour se débrancher plus ou moins du système. En tout cas, oui, donc il y a cette dynamique. Par contre, je suis au niveau de l'État, enfin, il le disait justement à l'instant, ça manque un peu de soutien au niveau de l'État et au niveau au niveau public. Et il est temps, effectivement, qu'il se passe deux choses. Il est temps que l'État intervienne comme un facilitateur d'une émergence et d'un foisonnement d'initiatives comme les Fab Labs. Ça fait partie de la boîte à outils, les Fab Labs, qui est une super boîte à outils, mais pour aller vers une forme de résilience collective, résister aux changements et aux chocs possible qui arrive. Donc il faudrait effectivement que l'État facilite un petit peu ce foisonnement d'initiatives et de créativité qui viennent du bas, qui viennent des territoires, des gens. Et puis accessoirement, il faudrait, et ça c'est pas seulement l'État, c'est également les entreprises, réinventer complètement notre rapport à l'innovation. Donc ça, je pourrais en discuter si...
Juste donnez-nous un exemple. Comment réinventer notre rapport à l'innovation?
Ouais. Mais aujourd'hui, si vous voulez, on a une conception de l'innovation qui est toujours plus. Voilà. C'est toujours plus performant, toujours plus vite, toujours plus de données, toujours plus de data, donc toujours plus léger, etc. Et on va vers une espèce de gadgetisation du monde qui est hyper technologisée. En réalité, on nous raconte également qu'on va dématérialiser ce monde puisque tout devient électronique, tout devient même peut-être de la donnée, de la data, et donc ça dématérialise le monde. C'est complètement faux. C'est un monde qui est hyper industriel parce que derrière toute cette nouvelle technologie, technologies. Il y a énormément d'électronique, effectivement. Il faut bien fabriquer les systèmes et les dispositifs électroniques. Ça consomme énormément d'énergie, etc. Et donc, on a cette vision de l'innovation qui est une vision, finalement, je trouve personnellement assez, assez puérile, qui est d'aller vers ouais, toujours plus. Et, bon, et il serait peut-être temps de, d'une part, sortir de ce délire, parce que c'est vraiment un peu un délire, de sortir de ce délire d'hubris où on va toujours avoir de la démesure, aller toujours plus ceci, nos limites, sortir de là-dessus, de là-dedans, et déjà d'une part aller vers la plutôt comment on arrive à répondre aux besoins actuels en réintégrant un certain nombre de nouveaux critères qui sont eux-mêmes liés aux nouvelles contraintes de ce siècle.
Partir des besoins et pas de l'offre, donc commerciale.
Partir des limites de ce monde. Je pourrais développer après.
On va donner la parole à un auditeur, parce que bien sûr, vous pouvez nous appeler au 33 1 84 22 71 71. Si vous vous sentez concerné, si vous voulez aussi en savoir plus, poser des questions à nos invités, ce sont des bons bidouilleurs, on va dire, hein, avec un an et demi sur un voilier à parcourir le monde. Je vais redire d'ailleurs le parcours de Corentin Châtel-Perron, Concarneau, le Maroc, le Sénégal, le Cap-Vert, le Brésil, Madagascar, les Seychelles, l'Inde, le Sri Lanka, la Thaïlande, l'Indonésie, un an et demi, donc avec beaucoup de galères, en semi-autarcie, évidemment. 33 1 84 22 71 71, on accueille Philippe qui nous appelle de Paris. Bonjour Philippe.
Bonjour.
On vous écoute, Philippe, vous êtes en direct.
Bah écoutez, moi c'est du low cost, mais du low tech, disons plutôt, d'il y a 3 ou 4 000 ans ou 5 000 ans. Hein. Donc c'est des choses qui ont été faites à des époques protohistoriques. Ce sont des tas de pierres qui font à peu près 2-3 mètres de haut et à peu près autant de large, et sur plusieurs dizaines de mètres, parfois de long, et qui produisent de l'eau, simplement par condensation. C'est-à-dire que l'air chaud s'infiltre au milieu des pierres, le tas de pierres est frais à l'intérieur et ça fait condensation et on a des débits sur un très grand, ça s'appelle des aiguiers, hein. Aiguiers ça vient de Aigo dans le Midi qui concerne l'eau en fait. Avec 300 mètres de long on arrive à 12 litres à la minute, hein. Donc on a vraiment des fontaines d'eau et ça je pense que c'est quelque chose qui a déjà été utilisé en Afrique du Nord. Il y a une personne qui avait fait une thèse là-dessus dans les années 80 et même peut-être un peu avant d'ailleurs. Et puis il y a des choses un peu similaires mais de conceptions différentes, je crois, en Afrique. Ce sont des systèmes qui... Enfin, c'est un ami qui m'a raconté ça, parce que moi, j'ai pas vu ça. Autant j'ai vu les aiguilles, mais c'est des puits qui sont creusés dans la terre ou dans la pierre, même, je crois, et qui sont raccordés les uns avec les autres. Il y a de l'air chaud qui passe dans ces puits. Il y a aussi, là, encore condensation, et l'eau est récupérée dans des puits un peu plus profonds. Et donc, on a de l'eau comme ça, dans des régions qui sont quand même assez arides. Je crois que c'est des systèmes très anciens qui devraient nous faire réfléchir plutôt que de faire des technologies avec des matériaux, je dirais, comme on a vu des capteurs de brouillard, par exemple, dans les déserts, des choses comme ça. On pourrait, avec de la pierre, simplement, des choses très simples qui sont sur place, construire des systèmes qui permettent de capter l'eau.
En tout cas, nos invités prennent des notes, hein, sur ce que vous avez dit. Merci de nous avoir appelé, Philippe Corentin de Châtel-Perron. Vous connaissiez là ce système-là, à base de pierre pour...
Je ne connaissais pas les aiguilles, si j'ai bien noté, mais je connaissais vraiment le principe qui est, lui... c'est vrai, est utilisé de manière traditionnelle depuis longtemps, le principe de condenser de l'eau, quand il y a même des animaux qui utilisent ça, ou des plantes. Mais effectivement, il y a souvent des low-tech qui ressortent au bout d'un moment parce que des gens sont sous contrainte ou parce qu'il y a des matériaux qui deviennent accessibles qui ne l'étaient pas avant, qui rendent des techniques traditionnelles beaucoup plus intéressantes.
Vous êtes intéressé, vous, par exemple, à des... alors là, c'est une technique qu'on connaît depuis très longtemps, des filtres à eau à base de poterie d'argile.
Oui, ça peut-être, Pierre-Alain, tu peux en parler.
En gros, le principe, il est relativement simple, c'est de faire une poterie classique qui va accueillir de l'eau. Et la différence, c'est que dans la poterie, on va y mettre de la sueur de bois. Et quand on va cuire la poterie, la sueur va se carboniser et créer des bulles de... Voilà, des petits espaces, des porosités dans la poterie, mais qui sont minuscules.
Qui vont servir de filtre.
Qui vont servir de filtre et qui vont pouvoir piéger la plupart des bactéries en fait, qu'il y a contenues dans l'eau. Et le système peut être optimisé, alors ça c'est plus avec des découvertes plus récentes, bien que c'est quand même à faire un petit moment, c'est l'intérieur du filtre est tapissé d'argent colloïdal en fait, cet argent-là va venir tuer les bactéries qui sont piégées dans le filtre. Et donc ça permet d'obtenir, je crois, il y a plus de 90% des pathogènes qui sont retenus grâce à ce type de système.
Alors évidemment, ces poteries-là sont fragiles, hein, ça peut se casser, c'est pas non plus l'objet si simple à manipuler. Je crois qu'il y a une expérience au Maroc qui finalement est un peu revenue en arrière en créant tout simplement des filtres à charbon achetés en Chine pour les mettre en haut des bouteilles plastiques pour que ça soit plus simple d'usage. Parce que la particularité des low-tech, c'est aussi qu'il faut que les habitants puissent s'en emparer assez facilement dans une vie quotidienne qui n'est pas toujours simple, hein, Corentin.
Oui, en fait, il y a toute une quantité de low-tech que n'importe qui peut refaire chez soi parce que c'est assez simple. Mais des low-tech comme celle-là, il faut quand même maîtriser un petit peu la poterie. Et puis, il faut un four qui cuise à 1000 degrés, etc. Et donc ça, c'est plutôt pour des artisans ou pour des petites entreprises ou même des grosses entreprises. C'est en Inde, au Guatemala, au Maroc. Il y a plusieurs pays comme ça où ils fabriquent ce type de filtre-là. C'est pas à très grande échelle, mais à échelle moyenne. Ouais.
Alors, quelles sont les innovations les plus prometteuses dans le contexte actuel du réchauffement climatique et en même temps des carences aussi des villes pauvres? Vous avez, par exemple, travaillé sur le charbon vert ou le biocharbon à Toubacouta,
oui,
en Casamance,
au Sénégal.
Qui est fabriqué à partir de déchets agricoles. Quand on voit que pour produire un kilo de charbon de bois, il faut 5 kilos de bois, il y a de quoi s'inquiéter pour la déforestation. Ce charbon vert, il est fait à partir de paille qui est ramassée. Est-ce que ça, typiquement, c'est ce type de low-tech qui est prometteuse ou en réalité, c'est long à fabriquer et c'est difficile à dupliquer finalement?
Mais alors c'est un bon exemple parce que justement ça montre que sur le papier c'est une low-tech qui est géniale parce que ça permet de contrer un problème
là, ouais,
qu'on a vu dans plein de pays. La déforestation, ça, enfin, voilà, ça concerne des millions de personnes. Ce qu'il y a, c'est qu'effectivement ben, ça coûte quand même plus cher, c'est plus long à fabriquer que d'aller chercher du bois dans la forêt ou d'acheter du charbon de bois la plupart du temps. Et donc dans plusieurs pays du monde, il y a des associations qui ont commencé à essayer de trouver des modèles économiques qui permettaient à cette low-tech de devenir rentable, dont à Toubacouta l'association Nebedaï, qui par un système de groupement de femmes qui se répartissent chaque étape de la fabrication a réussi a priori à trouver un modèle économique viable.
C'est ça, c'est-à-dire, du coup un modèle un peu plus taylorisé d'une certaine manière.
Je sais pas s'il faut dire ça quand on voit les femmes travailler en chantant et tout ça, ça fait pas vraiment penser au taylorisme. Mais en tout cas, c'est sûr que c'est à ce moment-là, à cette escale-là, qu'on s'est rendu compte qu'il y a plein de low-tech qui marchaient bien sur le papier, mais en général, ça demandait vraiment une autre ingéniosité de trouver le modèle économique pour qu'elle puisse se développer.
Quand on voit le parcours que vous avez effectué sur le catamaran de 14 mètres en semi-autarcie avec vos poules, votre spiruline, trouvée à Madagascar d'ailleurs, avec la même chose, avec des expériences intéressantes pour se nourrir, mais on a l'impression que les low-tech, c'est pour les pays du Sud et les high-tech, on peut continuer à se goinfrer dans les pays riches, non?
Non. En fait, on s'est rendu compte petit à petit que c'est vrai que les low-tech pouvaient permettre de répondre à pas mal de problèmes pour les réponses aux besoins de base, mais qu'en pays occidental, les gens qui n'ont pas de besoin, enfin voilà, qui ne sont pas sous contrainte, il y avait clairement quelque chose à changer aussi. Et c'est là que Pierre-Alain intervient.
Ouais, c'est vrai qu'un autre, enfin, quand moi je suis rentré du bateau, on a commencé à se demander, et puis on était sollicité aussi par des gens en France pour savoir concrètement qu'est-ce que je peux mettre chez moi comme système. Et on ne fait pas forcément notre cuisine au feu de bois comme ça peut être dans d'autres contextes. Et on a commencé à regarder, en fait, effectivement, est-ce qu'il y a des low-tech qui existent pour un contexte peut-être plus occidental? Et on s'est rendu compte qu'il y a...
Un contexte très urbanisé.
Très urbanisé, ouais, par exemple. Et il y a plein de choses qui existent. Par exemple, on peut facilement fabriquer ce qu'on appelle des capteurs air chaud, qui sont des chauffages qu'on peut mettre sur son habitat, qui vont capter le soleil en hiver.
Sur son habitat. On habite dans un immeuble, en fait.
Alors, dans un immeuble, là, c'est... Alors, on va peut-être plus penser collectif et voir comment est-ce qu'on peut utiliser, par exemple, la toiture pour... Alors, dans le cas du... Ça peut être pour de la récupération d'eau de pluie, ça peut être pour de la captation solaire. C'est vrai que c'est dommage de ne pas utiliser cette énergie gratuite. Et on peut fabriquer, typiquement, de l'eau chaude. On peut être à plus de 60-70% autonome en eau chaude sanitaire grâce au soleil, même en France. Et il y a plein de systèmes comme ça. Alors après, on s'est rendu compte que c'était pas sur les mêmes leviers qu'il fallait appuyer. Par exemple, la notion de pas on va dire, il ne faut pas que les gens perdent en confort par rapport au système déjà existant. Enfin, ça, c'est pareil partout, mais peut-être encore plus dans ce contexte urbanisé en milieu occidental. Mais ouais, il y a plein de systèmes qui peuvent être appliqués aussi dans ce type d'endroit.
Vous nous appelez, en tout cas, si vous vous intéressez au low-tech en opposition au high-tech. Ça ne veut pas dire qu'évidemment, elles n'ont pas vocation à cohabiter. 33 1 84 22 71 71. This land is your land. Milliards de voisins, c'est Sharon Jones tout simplement, on est en direct sur RFI. On parle des low-tech en opposition au high-tech. C'est pas tout à fait une forme de décroissance, mais en tout cas c'est une ingéniosité technologique pour faire avec moins consommer. Arthur Keller, depuis le début vous nous dites, mais finalement on n'a pas le choix. Dans les pays du Sud, on a bien compris que fabriquer un panneau solaire avec de la récup pour 5000 francs CFA, c'est tout bénéfice pour les habitants. Pour les pays du Nord qui ont tout, qui ont le pouvoir d'achat et qui ont la haute technologie, pourquoi devrions-nous changer nos habitudes ? Et surtout, comment le pouvons-nous ? À notre échelle, franchement, il y a de quoi être dubitatif.
Alors, on a tout pour l'instant. Effectivement. Je voudrais juste dire quelque chose aux Africains, pas forcément aux gens eux-mêmes, mais plutôt, s'ils nous écoutent, à certains dirigeants des pays africains. Ne nous suivez pas, on s'est trompé. Voilà. Donc prenez une autre voie, développez-vous différemment, mais nous, on va se casser la gueule. Et la raison pour laquelle je dis ça, c'est parce qu'effectivement, il y a aujourd'hui, dans le débat public, débat politique, il y a une question qu'on aborde extrêmement peu, alors que c'est la ligne de faille qui devrait, autour de laquelle se cristallisent vraiment tous les problèmes aujourd'hui, c'est la question des limites. Est-ce qu'on comprend ou pas qu'il y a des limites écologiques, des limites en termes de matière, de matériaux et de ressources disponibles, notamment énergétiques, et des limites également humaines et économiques, qu'il ne faut pas franchir et qu'on est en train allègrement de franchir. Quand on n'a pas compris qu'il y avait des limites, évidemment, les gens qui voudraient qu'on s'impose par nous-mêmes des limites ne comprendraient pas. Ces gens-là diraient, mais c'est qui ces gens-là ? C'est des dictateurs. Mais quand on a compris qu'il y avait des limites et qu'il fallait effectivement les répercuter sur déjà notre mode de consommation, ce qu'on consomme, pourquoi on le consomme et après comment on le consomme et comment on le produit, quand on a compris ça et qu'il y avait donc des limites, je dis bien, et ça implique de nouveaux critères de l'innovation, quand on a compris ça, et bien à ce moment-là, on se rend compte que c'est la voie à suivre pour être plus résilient face à des problématiques qui arrivent. Et éventuellement, un déclin, éventuellement même un effondrement. J'ose prononcer le mot.
Autant dire que du côté des élites politiques, que, comme le disait Modou à Dakar ou ailleurs ou chez nous, les low-tech, pour l'instant en tout cas, ne sont absolument pas valorisés par l'élite politique et par l'élite économique. On n'imaginerait pas un grand patron ou un président utiliser un objet low-tech dans son quotidien.
Bien
on
sûr.
Se dirait, mais ça le dévaloriserait probablement.
Oui, parce qu'on est dans une image qui est complètement faussée de l'avenir et qu'on entretient des mythes, des mythologies, des imaginaires de l'avenir, super high-tech, une fois de plus, nos limites, alors que les limites, nous y sommes. On consomme déjà 1,7 planète Terre, si on regarde un petit peu l'empreinte écologique, c'est-à-dire l'impact écologique qu'on a sur cette planète, et si on compare à ce que la planète peut durablement donner, c'est-à-dire donner comme ressource et puis régénérer comme pollution, on est largement au-delà de ça déjà, et on va se prendre assez rapidement finalement ces limites dans la tête. Pour l'instant, elles sont...
Comment vous pouvez convaincre les dirigeants que c'est vous qui représentez le monde de demain, Corentin?
C'est à moi que vous posez cette question-là.
Bah oui, vous avez 36 ans.
Parce que je m'adresse rarement aux dirigeants politiques de ce monde, du coup ça me fait un petit peu peur là. Justement, nous on essaye de s'adresser justement... pas aux politiques, mais justement aux gens normaux comme vous et moi, en disant que derrière toutes les low-tech... Mais si, justement, pour dire qu'on a un super pouvoir. C'est que, en fait, derrière les low-tech, nous, toutes ces solutions, low-tech, c'est un peu la projection sur un plan technique de toute une philosophie qu'il y a derrière, qui dit qu'on peut vivre mieux, on peut aller vers se focaliser plus vers notre bien-être et celui de la planète. Avec des, enfin voilà, si on se focalise là-dessus, c'est pas du tout vers le progrès qu'on a connu ces dernières années qu'il faut aller, mais un progrès différent.
Dans votre rapport à Arthur Keller, il y a trois principales propositions sur les low-tech pour développer les low-tech, y compris dans les pays riches qui n'en ont pas pour le moment un besoin vital.
Tout à fait. Alors il y a exactement, pour reprendre ce que tu dis, il y a le fait qu'il faut développer les Fab Labs dont on parlait tout à l'heure, mais aussi les recycleries, les ressourceries, et on peut faire des pays industrialisés, comme la France, vraiment des champions de la réparation, du réemploi, du zéro déchet, et mettre en place une vraie dynamique au niveau territorial pour ces choses-là. Ça, c'est une des premières mesures qu'on a proposées, c'est-à-dire de favoriser l'émergence de ça. La deuxième mesure, c'était pour basculer les cotisations sociales, donc dans les entreprises et les administrations publiques, aujourd'hui c'est sur le travail, mais basculer ça vers l'environnement, c'est-à-dire tout ce qui est impact environnemental, avec une fiscalité environnementale, et ça permet l'émergence d'une économie qui est plus riche en travail et plus économe en ressources. Et la troisième chose que l'on préconise, c'est de créer une cour de défense des communs, en tout cas des biens communs, qui consisterait à réinterroger un petit peu notre vision de ce qu'on consomme, pourquoi on le consomme, et derrière, comment.
Eh bien, ça fait tout un programme. C'est pas sûr que les entreprises vous écoutent d'une oreille grande ouverte quand on voit qu'elles investissent de moins en moins pour la protection de l'environnement, comme l'a dénoncé une étude de l'INSEE il y a quelques jours.
Mais elles vont se tirer une balle dans le pied, parce que même si effectivement elles font de l'optimisation à tout niveau et notamment fiscale, en fait elles sont en train de fermer la porte à tous les jeunes qui sortent aujourd'hui d'écoles d'ingénieurs et d'autres types d'écoles, qui réclament, pas tous, mais il y en a de plus en plus qui réclament autre chose, un nouveau modèle, et aujourd'hui les entreprises n'ont rien à leur donner. Aucune perspective qui fasse sens à leurs yeux. Il est temps de se bouger le cul, je dis ça aux entrepreneurs et aux entreprises.
Quand vous allez voir une célèbre enseigne de bricolage française, Corentin, pour qu'elle participe financièrement au projet, à votre projet, au titre de la responsabilité sociale des entreprises, alors que cette même enseigne vend essentiellement des produits polluants, peu durables, et mise sur un marketing du renouvellement permanent des biens de consommation et pousse à la consommation en permanence, ça vous pose pas un problème vous-même, hein?
Non, parce qu'on pense que nous aussi on est fautifs, on va pas... nous aussi on utilise du pétrole, nous aussi on est entouré là aujourd'hui dans ce studio de plein d'objets high-tech, etc. Personne n'est irréprochable, chacun doit prendre... dans ces entreprises-là, tout le monde a envie de changer. Et en fait, c'est comme ça, en s'adressant à ces gens-là, que tout changera.
Eh bien, merci en tout cas à vous tous, Pierre-Alain Lévesque et Corentin Châtel-Perron. Alors, Nomades des Mers, le tour du monde des innovations, il y a le livre, bien sûr, paru chez Arte Éditions. Il y a le documentaire qui est diffusé ce soir, 26 minutes tous les jours, à partir de ce soir jusqu'au 16 novembre. Et évidemment à retrouver en replay sur le site Arte TV. Et puis il y a aussi, pour avoir tous les modes d'emploi de tous les objets, les tutos, etc., le site internet.
Lowtechlab.org.
Lowtechlab.org, l'objet dont vous êtes le plus fier, la découverte dont vous êtes le plus fier.
Voilà, c'est difficile, on en a documenté une quarantaine en 5 secondes. Moi, je suis devenu assez fan de l'élevage de grillons, mais c'est très personnel.
Arthur Keller, merci à vous. Rapport à consulter vers des technologies sobres et résilientes. À demain.